Se promener sur un fil tendu en l'air, comme le font les funambules, n'est pas un exercice qui m'attire. Quand j'étais enfant, avec les copains, nous marchions sur une raille histoire de s'amuser. C'est relativement facile et j'y arrive encore. Ce qui est beaucoup plus difficile, par contre, est de rester dans le droit chemin, au niveau moral et spirituel, parce que je suis comme un mouton noir. J'ai la fâcheuse tendance à m'imaginer que l'herbe sera meilleure si je m'écarte du sentier tracé par le bon pasteur. Je continue à lire la lettre de Jude. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Verset 21. Qu'est-ce que ça veut dire, se maintenir dans l'amour de Dieu? Que le Seigneur nous aime est une vérité qui revient fréquemment dans les Écritures, et en particulier sous la plume de l'apôtre Jean qui écrit « Nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Jésus est descendu sur terre pour nous annoncer et nous prouver par sa mort sur la croix que Dieu aime les hommes. Il a dit à ses disciples, « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. » Jude ne nous apprend rien de nouveau. Il ne fait que répéter ce que Jésus et Jean ont déjà dit. Par contre, Jésus et Jean expliquent comment se maintenir dans l'amour de Dieu. Je les cite. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. » Fin de citation. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est obéir à ce que nous savons être sa volonté. Cela inclut toutes ses lois morales, bien sûr, mais aussi la voie spécifique qu'il a tracée pour moi, que je dois découvrir et dans laquelle je dois marcher. Dans la prière, communément appelée le Notre Père, deux des six requêtes adressées à Dieu sont « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Non seulement le croyant doit aspirer à ce que Dieu règne et qu'il étende sa souveraineté à toute la terre, mais il est également responsable de conformer sa vie à ce qu'il sait être pour lui, personnellement, la volonté de Dieu. C'est comme ça que le fidèle du Seigneur demeure dans l'amour de Dieu. Je sais bien que le mot « obéissance » ne suscite pas l'enthousiasme. Cependant, c'est le chemin que nous devons suivre et le secret du bonheur. Après avoir dit à ses disciples d'obéir, Jésus ajoute « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. » Je dois obéir à Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, nous accorde, vous accorde, m'accorde la vie éternelle. Le verbe pour « attendant » veut dire « attendre avec empressement et espérance ». Cette signification a conduit certains commentateurs à penser que la vie éternelle, mentionnée par Jude, fait référence à l'enlèvement de l'Église du Christ auquel participeront tous les croyants présents sur terre à ce moment-là. C'est tout à fait possible. Le mot traduit par « bonté » est généralement rendu par « miséricorde ». Mais ce qui est important à noter est que la plupart du temps, quand ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, il est appliqué à Dieu le Père. C'est lui qui fait miséricorde. D'autres fois, surtout dans les salutations du début des Épîtres, l'auteur fait référence à la fois au Père et au Fils. Deux ou trois fois, le texte dit que le Seigneur fait miséricorde. Dans ce cas, il s'agit soit du Père, soit du Fils. Ici, dans la lettre de Jude, il est franchement question de la miséricorde du Christ, ce qui est une nouvelle preuve, si besoin était, que le Père et le Fils sont un. Dans sa miséricorde, Dieu accorde la vie éternelle à ceux qui lui font confiance, qui se soumettent à lui. Cependant, même si cette nouvelle vie est déjà présente dans l'âme des croyants, elle reste abstraite dans notre esprit, car elle ne se réalisera pleinement que lorsque nous serons de l'autre côté, suite à la mort ou à l'enlèvement de l'Église. Dans la prière que nous appelons sacerdotale, Jésus a défini la vie éternelle disant qu'elle consiste à connaître le Dieu unique et véritable et Jésus-Christ. Par définition, cette vie ne s'arrête jamais. C'est vrai, mais j'ai quand même du mal à m'imaginer à quoi va ressembler l'éternité, surtout que ce mot a quelque chose d'effrayant. Quand par une nuit étoilée, je regarde la voûte céleste, je suis confondu par cette immensité qui m'écrase et me rappelle que je suis misérablement petit et périssable. Le cosmos et l'éternité ont des dimensions qu'il m'est impossible de saisir et de comprendre, et moi, ça m'angoisse. Jude va maintenant mentionner trois différentes catégories d'incrédules qui sont dans l'Église, qui ont un pied dedans et un dehors, ou qui gravitent dans la sphère des croyants. Certains sont tout seuls dans leur coin et ne présentent donc aucun danger pour quiconque sinon eux-mêmes. Mais d'autres sont franchement toxiques parce qu'ils essayent par tous les moyens de rallier le plus de gens possible à leur cause, à leur vision fausse du monde et de Dieu. Les enseignants de mensonges s'en prennent d'abord à ceux qui sont faibles dans la foi. Ils sont comme des loups qui traquent des brebis, préférant les malingres plus faciles à tuer. Je continue la lettre de Jude. « Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. » Verset 22. Il s'agit de personnes confuses qui ne savent plus qui ou que croire. Elles sont troublées par l'enseignement de certains responsables de l'Église parce qu'il va à l'encontre de ce qu'elles croyaient jusque-là. Mais comme elles ont aussi une certaine considération pour ces anciens, ou sont peut-être attirées par leur style de vie dévergondé à la romaine, elles ont perdu leur conviction et sont dans le brouillard spirituel. C'est ce qui était arrivé dans l'église de Corinthe à laquelle l'apôtre Paul écrit « J'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. » Le même phénomène s'est produit dans l'église des Galates et Paul a été plutôt du genre brutal avec eux quand il leur a dit « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annoncez un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. » En parlant de ceux qui doutent, Jude ne fait pas référence aux hérétiques purs et durs, mais aux croyants qui vacillent, qui sont déchirés entre la vérité et l'erreur, et qui ressemblent aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent, pour reprendre les paroles de Jacques. Jude demande donc aux autres membres de l'assemblée, du moins à ceux qui sont assurés dans leur foi, de tendre la perche aux faibles, d'avoir de la compassion à leur égard, d'être patients et de les entourer. Bien sûr, et par la même occasion, il faut leur rappeler ce qu'est la foi véritable, celle qui a été transmise une fois pour toutes par les apôtres à ceux qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Paul écrit à Timothée que le serviteur du Seigneur doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Jacques exprime la même idée quand il écrit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort » et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Quand un croyant ou un sympathisant s'intéresse d'un peu trop près à une hérésie, il faut le reprendre sans tarder, sinon il risque de sombrer corps et âme dans l'erreur, ce qui aura des répercussions désastreuses pour lui et sa famille. La situation est différente quand il s'agit d'un non-croyant qui essaye de comprendre en toute sincérité en quoi consiste la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne faut pas se formaliser si ce genre de personne va voir les Mormons ou les témoins de Jéhovah. Par contre, il est nécessaire de répondre avec douceur et tact à toutes ces questions, même si ce sont les mêmes qui reviennent sans cesse. Il est également important de prier pour les gens en recherche, car au final, seul le Saint-Esprit peut les convaincre que Jésus est la vérité. Je continue la lettre de Jude. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Verset 23. Ici, il s'agit de non-croyants qui ont tout d'abord eu un intérêt pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais qui maintenant se sont laissés embrigader par des enseignants de mensonges. Le verbe traduit par « arrachant » au feu signifie « saisir quelque chose ou quelqu'un de force ». Cette image fait penser à la parole du prophète Amos qui dit au peuple d'Israël « J'ai produit parmi vous des bouleversements et vous avez été comme un tison sauvé du feu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi. » L'Éternel le déclare. La même image du tison arraché au feu est reprise par le prophète Zacharie concernant Jérusalem. De toute évidence, Jude avait appris que certains, probablement des gens qui fréquentaient l'Église mais n'étaient pas encore baptisés, étaient tombés dans le piège des fausses croyances des apostats. Il les perçoit comme ayant été marqués au fer rouge. Ils sont destinés au feu de l'enfer s'ils persistent à suivre les apostats. Le meilleur moyen de tirer de telles personnes hors de la fournaise ardente dans laquelle ils se sont jetés consiste à contrecarrer les fausses doctrines en utilisant les Écritures d'une traduction protestante ou catholique, parce que la Bible des témoins de Jéhovah est trafiquée et donc inutilisable. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a pris le temps d'expliquer qui il était à ceux qui cherchaient sincèrement la vérité. Avec les faux jetons religieux de son époque, Jésus engageait le dialogue, mais il a aussi menacé sans ménagement les scribes et les pharisiens. Je continue la lettre de Jude. « Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Verset 23. Jude est grossier dans son langage. L'expression « tunique souillée par la chair » est une façon respectable de dire « sous-vêtement dégueulasse ». Une personne normalement constituée répugne à toucher les slips souillés de quelqu'un d'autre. Par ses paroles crues, Jude veut choquer ses lecteurs afin qu'ils réalisent combien les apostats sont dangereux. Ils sont atteints de la gale spirituelle en quelque sorte, et comme par osmose, leurs égarements pourraient entacher l'esprit de ceux qui les fréquentent d'un peu trop près. Il faut être sans pitié avec les loups qui cherchent à diviser le troupeau de Dieu. L'apôtre Paul écrit « Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église. » Jude a terminé ses mises en garde sévères et comme il ne veut pas finir sur un ton négatif, il éclate en une doxologie grandiose dont le point d'orgue est la personne de Jésus-Christ, car c'est lui qui est la réponse à toutes les apostasies et fausses religions répandues dans le monde par Satan. Je termine la lettre de Jude. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Versets 24 et 25. Cette action de grâce sublime a pour but d'apporter consolation et encouragement aux croyants en leur rappelant la fidélité et la puissance de Dieu. Jude met l'accent sur deux aspects de la bienveillance divine envers les croyants qui sont de préserver leur salut et de les présenter irréprochables devant son trône glorieux. Le verbe traduit par « préserver » est issu du vocabulaire militaire et signifie « garder, veiller ». C'est comme si Jude disait que Dieu est à son poste et il monte la garde en faveur de ses enfants afin de veiller à leur sécurité. Étant donné la fidélité du Seigneur et sa toute-puissance, il est hors de question et il ne permettra jamais qu'un seul de ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ se perde en route. Même si, humainement parlant, le chemin qui conduit au ciel semble périlleux et parsemé de pièges, selon la perspective divine, il est absolument sûr et sans danger. Une fois que quelqu'un s'engage avec Jésus-Christ, il peut être certain d'arriver au ciel, sa destination finale, parce que Dieu est capable de le garder. Quand j'ai fait mes études à Nancy, je fréquentais une église qui enseignait qu'un croyant pouvait facilement perdre le salut. J'étais alors tout jeune dans la foi et j'ignorais tout des Écritures, mais il me semblait déjà que cette perspective ne cadrait pas avec le caractère de Dieu. En effet, une telle croyance signifie que le Seigneur du ciel et de la terre peut prédestiner un croyant à la sainteté sans qu'il devienne saint, qu'il peut l'adopter comme son enfant pour le renier ensuite, et que la volonté humaine est si forte qu'elle peut supplanter la puissance divine. Non, vraiment, ça ne cadre pas avec le caractère de Dieu. Non seulement Dieu a la puissance de nous préserver de toute chute, mais il est aussi capable de nous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. Les apôtres Paul et Pierre écrivent des paroles semblables. Je les cite. Lui-même d'ailleurs vous rendra fort jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est Dieu en personne qui, par pure grâce, perfectionne ses enfants, les affermit, les fortifie et les rend inébranlables. La nature humaine étant ce qu'elle est, quand tout va bien, on fait de l'immobilisme et on sent qu'il ose. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un coup de hache par-ci et d'un coup de ciseau par-là. En général, c'est au travers des épreuves et des souffrances que Dieu nous façonne, et ça fait mal. Ici-bas, le croyant se maintient par la grâce de Dieu, mais un jour, il paraîtra, il sera établi et confirmé dans la gloire. L'idée de paraître devant Dieu ne m'emballe pas tellement, en fait elle me glace le sang. Mais je suis en bonne compagnie puisque les prophètes Ésaïe et Ézéchiel ont eu cette même réaction. Et les apôtres Pierre, Jacques et Jean furent terrorisés sur la montagne de la Transfiguration. Jean s'est même évanoui en voyant le Christ ressuscité. Face au Dieu de gloire, l'homme sent instantanément tout le poids de ses péchés. Pour paraître devant Dieu, il faut être irréprochable, parfait et saint, rien que ça. Bien que Dieu voie ses enfants au travers du Christ, c'est-à-dire sans faute, nous sommes encore dans un corps noir de péché et dans cet état, il ne nous est pas possible de paraître devant Dieu. La mort a au moins l'avantage de nous débarrasser de la présence du péché. Mais ce qu'il nous faut et que nous obtiendrons est un corps glorifié. Alors nous serons vraiment à l'aise dans la présence de Dieu et nous pourrons l'adorer en vérité pour l'éternité.